Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Les amis, c'est un grand jour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 18 février, vous avez la possibilité de mettre la main sur le bundle Catching, alias le meilleur plan de l'année. Qu'est-ce que c'est le bundle Catching ? C'est organisé par Geneviève Gauvin et c'est tout simplement un pack de 15 formations à un prix tout à fait dérisoire, à savoir environ 180 euros, puisque c'est 257 dollars canadiens, donc avec la conversion, on est à environ 180 euros, et oui, ce sont de vraies formations pour ce prix-là. Vous y retrouverez notamment la formation Reels Queen de Quincy, que j'ai reçue il y a quelques temps sur le podcast. Vous retrouverez également la formation Canva Power de Cindy Chollet, qui j'avoue est mon coup de cœur de ce bundle. La formation est incroyable et permet de créer de beaux visuels sur Canva sans être un ou une pro. Vous y retrouverez également la formation Speak Digital de Camille Wagner pour apprendre à organiser un sommet virtuel. Et vous y retrouverez d'autres formations sur la liste d'emails, sur Pinterest, sur le fait de déléguer, sur le référencement, sur la création de contenu. 15 formations pour travailler sur différents aspects de votre business. Si ça vous intéresse, vous avez mon lien affilié dans les notes de cet épisode, ce qui signifie que si vous décidez d'acheter le bundle à travers mon lien, vous m'octroyez une petite commission. Et je vous en remercie. Sinon, vous pouvez également vous rendre directement à l'adresse safiagourari.fr/bundle, qui s'écrit B-U-N-D-E-L, pour accéder de manière très directe à la page où vous pourrez l'acheter et en tout cas en savoir plus. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Geneviève. Salut Geneviève.
Salut, comment ça va?
Va très bien, et toi?
Ben oui, j'amène mon petit accent québécois sur ton podcast de temps en temps, ça me fait toujours plaisir.
Moi aussi, j'aime bien. C'est comme si je voyageais un peu, tu vois, ben oui, de chez moi, mais voilà, c'est ça. Alors cette semaine, du coup, on est le 14 février. Alors au-delà d'être la Saint-Valentin, c'est aussi le lancement du bundle Catching, 3e édition. Donc pour cette année, alors le bundle, je dis tout de suite, il est disponible jusqu'au vendredi 18 février. Donc si vous écoutez cet épisode avant, sachez que vous avez la possibilité de découvrir l'ensemble du bundle dont le lien est dans les notes de l'épisode. Et ce bundle, cette année, regroupe 15 formations. Alors juste pour te poser des petites questions sur ce bundle, parce que je trouve toujours que c'est hyper intéressant. Ouais. Depuis quand tu le prépares?
Depuis quand je planifie cette édition-là, à peu près, j'ai commencé à réfléchir en juillet, puis en août, j'ai vraiment plus commencé à contacter les collaborateurs pour être capable de signer finalement mes contrats, genre à peu près en septembre. Fait que je reçois tout le temps pas mal de demandes, genre est-ce que je peux être sur le bundle, mais c'est il y a tout le temps quelqu'un qui est soit trop tôt, soit trop tard, ou genre j'ai pas encore commencé. Il y a vraiment une window en particulier, puis à partir de là, après c'est terminé, puis là on rentre dans la production, puis dans toute la cour, tu le sais, t'as été là l'an passé, tout dans la cour d'eau avec tous les collaborateurs, de fournir le matériel, c'est gérer beaucoup de personnes, fait que ça prend du temps finalement. Ça, puis pour moi, c'est important de respecter le temps des gens avec qui je collabore. Puis je sais qu'on a tous des calendriers, des agendas bien remplis. Donc, si je me prends assez d'avance, j'ai pas besoin de changer les plans des gens en général. Les gens vont faire leurs plans autour de moi.
Mais tu sais, j'ai participé à plusieurs bundles et je prends toujours le tien en exemple parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien organisé qui a tout anticipé. Genre, limite, les autres bundles, c'était à l'arrache. Et j'étais en mode, mais moi, j'ai fait catching avec Geneviève. Vous pouvez pas me proposer des trucs comme ça?
Ça me fait énormément plaisir à entendre. C'est une énorme fierté pour moi que les gens avec qui je travaille apprécient l'expérience. Parce qu'au final, comme je te dis, on a toute la tête ailleurs avec nos propres projets. Donc, si je peux vraiment faciliter le processus, autant pour les gens qui vont acheter, qui vont adorer, qui vont avoir énormément de valeur, autant pour les gens avec qui je travaille, ça, pour moi, tu viens de faire mon année, là.
Bon, bah, écoute, avec grand plaisir. Alors, parmi ce bundle avec ces 15 formations, tu en mets une qui s'appelle Le Filon d'Or. Si
absolument.
Je me trompe pas. Voilà. Oui. Et qui enseigne comment trouver l'idée de formation, genre irrésistible, la pépite, pour que
la pépite.
Ça marche.
Exact. Yes. Non, mais t'as compris mon concept. Ouais.
Voilà. C'est l'idée. Effectivement, on sait à quel point c'est hyper important. Juste avant ça, je voulais te demander, selon toi, à partir de quel moment on considère que c'est le bon moment pour lancer sa première formation en ligne ou pour lancer une formation de manière générale?
Pour être honnête, ma réponse que les gens souvent, ils doutent un petit peu de ma réponse, c'est au début, tu peux commencer dès le début, dans le sens où tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une grande crowd. Si tu crées une grande communauté, si tu crées ta formation dès le début, peut-être qu'il ne va pas avoir énormément de ventes, mais tu vas commencer très rapidement à t'établir comme une experte parce que les gens vont associer finalement ce produit-là, ce produit-là fini finalement à toi. Tu vas devenir une référence dans ce marché-là parce que, mine de rien, une formation en ligne, ça se vend en masse. Ça se vend à plus de personnes qu'on peut le faire avec le coaching, avec le one-on-one, même le coaching de groupe à la limite parce qu'on ne peut pas diviser notre cerveau en un nombre infini d'étudiants. Tandis qu'avec une formation en ligne, c'est créé une fois et ensuite, ben, pas on l'oublie parce qu'on peut évidemment updater le contenu, mais on peut le vendre à l'infini. Ce qui fait en sorte que si tu crées ça dès le début, c'est un concept de mathématiques exponentielles où éventuellement, avec le temps, au fur et à mesure que ta communauté grandit, tu vas faire de plus en plus de ventes, sans mentionner, comme je disais, tous les bénéfices au niveau de la réputation et ainsi de suite. Beaucoup de personnes, justement, vont s'arrêter parce qu'ils disent « ben, j'ai pas une assez grosse communauté pour vendre ». Mais l'histoire avec une formation en ligne, c'est un plan long terme. Peu importe, là, il y en a des histoires là, de overnight success que les gens, ils, somehow, mais tu sais, on s'entend, là, on connaît tous l'histoire derrière les overnight success, ça n'existe pas vraiment, ça prend beaucoup de temps. Mais au final, la plupart des gens qui ont du succès, ça fait vraiment longtemps avec des formations en ligne, ça fait vraiment longtemps qu'ils roulent leur boss, puis qu'au final, éventuellement, ils ont assez de communauté après l'avoir fait grandir avec le temps, que là, ils commencent à générer des bons revenus avec leur formation en ligne. Mais la réalité, c'est qu'au départ, c'est très possible que tu n'en fasses pas beaucoup. On met beaucoup d'énergie, c'est un investissement de temps et d'énergie initialement à créer le contenu, à créer la réputation, à créer le marketing. Puis une fois que ça s'est fait, c'est là qu'on peut commencer finalement à avoir un retour sur investissement sur nos efforts. Une formation en ligne, c'est un investissement à long terme. Du coaching, du one-on-one, c'est des investissements très court terme, dans le sens où on investit, on échange son temps contre de l'argent. Une fois que le temps est dépensé, on reçoit l'argent, la transaction est à peu près terminée. T'sais. Évidemment, il y a des façons de garder les clients à long terme, ainsi de suite. Mais c'est sûr qu'on peut se tourner rapidement vers le coaching, vers le one-on-one, parce que c'est une source de revenus rapide. Mais je te dirais que c'est quand le bon moment pour commencer à créer ta formation dès le début. Tu crées ça en même temps, tu crées une offre qui est un petit peu diversifiée, puis je pense que c'est quelque chose que tu parles aussi beaucoup, d'avoir une espèce d'écosystème finalement d'offres. Ben justement, de créer ça dès le début te permet d'avoir des revenus un petit peu plus diversifiés, puis éventuellement de faire changer un petit peu la balance vers des revenus qui sont plus générés par les revenus exponentiels, par les formations en ligne versus le one-on-one. Évidemment, ça dépend de qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi leur propre essentiel dans la vie. On n'est pas tous pareils, mais si les gens qui écoutent veulent faire plus de, tu sais, veulent travailler moins, faire plus de revenus, ça leur prend ce genre d'outils-là que sont les formations en ligne.
C'est ce que tu fais, toi, pour travailler 15-20 heures, finalement, le chiffre d'affaires, il vient des formations en ligne.
Absolument. J'ai pas vendu de one-on-one depuis, quelque chose comme juillet 2020. Non, un petit peu avant, mais mars 2020, qui était les derniers coachings en one-on-one de mon ancien mastermind. Depuis, j'ai absolument pas parlé à personne.
Ça te manque ou pas?
Non, pas du tout. Ça manque vraiment pas. Parce que ça je suis quelqu'un qui va se donner beaucoup justement dans ce genre de relation-là, de coaching finalement, et ça me draine énormément. Ça fait en sorte que ensuite j'ai de la misère à travailler sur quoi que ce soit d'autre, j'ai de la misère à m'en remettre. Ça me rend pas très productive, puis ça fait en sorte aussi que, ben, ça garde pas mes énergies très élevées, tu sais. Rapidement, ça fait comme un pic, puis pouf! Après ça, c'est un gros creux. Donc, non seulement j'ai... Pour moi, c'est un challenge de gérer des gens. Je suis ce genre de personne-là sauvage. mais plus que ça, c'est vraiment comme l'espace que ça prend dans mon horaire aussi. Ça me permet pas d'avoir le lifestyle que je veux finalement. Je peux pas optimiser ça. Je peux pas scaler ces heures-là. Puis pour moi, c'est un deal breaker.
C'est important ce que tu viens de dire, parce que en fait tu nous montres juste à quel point c'est important de trouver un modèle d'entreprise qui soit en accord avec notre vie idéale, tu vois, notre vie, parce qu'on est souvent axé à chiffre d'affaires, je veux de l'argent qui rentre tout de suite, etc. Et on oublie un peu ce pourquoi on est devenu entrepreneur et ce pourquoi on a lancé le business, alors que justement c'est ce qui doit être le fondement de chaque décision qu'on va prendre dans notre business.
Pour moi, c'est ça l'essentialisme aussi, puis c'est de créer un modèle d'affaires qui est essentiel, qui ramène tout à l'essentiel pour nous spécifiquement. Donc, ton essentiel, c'est pas mon essentiel, on n'a pas les mêmes objectifs, puis j'en parlais sur une autre entrevue récemment, puis c'est important aussi de se demander souvent, c'est quoi notre essentiel maintenant? On s'attache souvent à des anciennes versions de nous-mêmes ou des espèces d'idéal, des idéaux finalement qu'on aimerait, mais au final, qu'est-ce que tu as besoin toi en ce moment? Puis tu sais, En toute honnêteté, en ce moment, puis là, bon, il y a toute l'histoire du lancement, mais dans la dernière année, j'ai travaillé plus que 15-20 heures semaine, puis j'étais correct avec ça. Puis il y a plein de monde qui vont me dire, ouais, mais là, t'as toujours dit que c'était ça. Ouais, mais c'est correct pour moi en ce moment, puis j'apprécie, puis c'est pas quelque chose qui est désagréable pour moi. Fait que, tu sais, rapidement, je vais probablement vouloir retomber à ces 15-20 heures semaine-là, mais au final, ça dépend juste de quoi j'ai besoin en ce moment, puis qu'est-ce qui me fait du bien. Si travailler plus que 15-20 heures me draine, m'empêche de vivre, au final, il y a des changements à faire, mais si t'es correct avec ça, c'est correct aussi, tu sais, fait que je veux pas imposer de modèle à personne ou de lifestyle, mais je veux vraiment inciter les gens à se poser la question de quoi j'ai besoin maintenant, puis d'être OK avec le fait d'évoluer à travers le temps, puis de pas essayer de s'attacher à une décision qu'ils ont prise dans le passé, parce que ça aide pas personne, au final, tu sais.
Je suis bien d'accord avec toi. Alors du coup, pour toi, c'est quoi? Comment tu caractérises une bonne idée de formation?
Une bonne idée de formation remplit différents critères, pour être honnête. Puis je pense, à la base, ça passe en premier par tout ce qui est... mais premièrement, il faut être passionné par son sujet.
Bon point.
Il faut que ce soit un sujet qui te passionne au final, parce que on va se le dire, si... Tu t'embarques dans ce projet-là, j'ai parlé que c'était un projet qui était long terme. Si tu t'embarques dans ce projet-là et c'est pas un sujet qui vient vraiment te chercher, tu vas finir par t'écœurer. Tu vas finir par plus vouloir en parler. Tu vas finir, autant sur les médias sociaux, tu vas finir par plus avoir envie de faire la promotion d'une formation. Puis on le sait, quand on parle pas de nos produits, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils se vendent pas. Donc, de vraiment avoir... Tu sais, ça fait partie, je dirais, deux deal breakers. Un sujet qui te passionne, puis, t'sais, pour motiver tes étudiants, pour te motiver toi, ça paraît, t'sais, quand les enseignants au primaire, au second, ben, au lycée, dans votre cas, quand un professeur qui est vraiment passionné par son sujet va tellement avoir plus d'impact, finalement, sur les résultats des étudiants. Puis ça veut pas dire qu'ils vont devenir comme lui, puis qu'ils vont devenir des... Mais ça change comment les gens, t'sais, apprécient le contenu, comme je disais, pour se motiver soi aussi. Puis un autre deal breaker, c'est vraiment un sujet que tu maîtrises vraiment. Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans des sujets de formation en ligne parce qu'ils apprennent de l'information, puis tout de suite, ils vont vouloir...
Il y en a beaucoup.
Oui, c'est vraiment comme genre prendre l'information puis régurgiter un petit peu l'information, mais ça n'a pas nécessairement été testé ou on n'a pas d'expérience derrière. Puis pour moi, ça fait partie des deux deal breakers, la passion, puis ça... spécifiquement ça, par éthique spécifiquement, où genre, tu donnes des conseils à des gens, pour moi c'est important que les gens puissent te faire confiance parce que t'as expérimenté ce que t'es en train d'enseigner, tu sais pourquoi t'enseignes les choses, puis t'es capable de voir les angles morts finalement, parce que tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un qui t'arrive avec une situation, tu l'as jamais vécu, puis c'est sûr et certain que tu seras jamais capable de vivre dans, de tout anticiper, mais si toi-même t'as expérimenté quelque chose, la seule chose que tu peux promettre, c'est d'avoir des résultats similaires aux tiens, puis éventuellement avec tes clients, tes différents clients, tu vas avoir comme une espèce de moyenne, mais ça, je te dirais là, que ça, c'est la grosse vraie base de trouver une idée de formation qui est bonne, parce que s'il n'y a pas ces deux choses-là, on arrête tout de suite. Mm-hmm. Ça sert à rien de continuer, finalement, dans la création de l'idée, finalement, la création de la formation. Puis ensuite, je te dirais que ça rassemble trois points vraiment importants, trois piliers. Il faut que ça soit une idée de formation qui est en lien avec un besoin qui est connu. Mm-hmm. Donc, quelque chose que les gens savent qu'ils ont besoin. Je ne sais pas si tu connais les cinq niveaux de conscience en vente de Eugene Schwartz, mon name dropping, qui considère qu'il y a cinq niveaux, soit être inconscient, donc la personne n'a même pas conscience qu'elle a un problème, conscient du problème, donc la personne a conscience qu'elle a un problème, mais elle ne connaît pas les solutions pour régler son problème. Le troisième niveau étant conscient de la solution. Donc, la personne sait qu'elle a un problème, elle connaît les différentes solutions qui s'offrent à elle, mais elle ne connaît pas nécessairement ton produit, ta formation. Mm-hmm. Ensuite, conscient du produit. Donc, la personne sait qu'elle a un problème, elle connaît les différentes solutions possibles, puis elle se familiarise justement avec les différents produits qui peuvent l'aider. Et le plus conscient, la personne connaît ton produit, elle comprend très bien c'est quoi les différentes choses. Donc, bref, avoir un but de créer une idée de formation basée sur un besoin connu. Au final, on veut aller 3 et plus. Donc, c'est des gens qui savent qu'ils ont un problème. Parce que c'est possible d'aller chercher des gens qui connaissent absolument rien, mais ça nécessite beaucoup d'éducation, de convaincre les gens, finalement, qui ont un problème. Puis des fois, ça peut être mal perçu aussi, de genre « Hey, t'as un problème! » tu sais. Donc, je pense que ça, c'est la première... un des trois piliers premiers. Ensuite, d'avoir un angle unique, donc d'être capable de se démarquer. Mm-hmm. Parce qu'on sait, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne, d'être capable de se nicher, vendre des formations, il y en a de plus en plus. Mine de rien, pourquoi est-ce que ton éducation, ce que tu as à dire est différent de ce que l'autre a à dire? Donc, d'être capable de vraiment trouver un angle différent pour ressortir la marque, de se démarquer. Et finalement... le troisième point, ça serait d'avoir une promesse qui est vraiment concrète. Mm-hmm. Donc, on évite toutes les histoires larges, genre « je vais t'aider à avoir un meilleur marketing », on ne sait pas qu'est-ce que avoir une meilleure santé, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une bonne idée de formation a vraiment ces trois piliers-là. Donc, un besoin connu, un angle unique, puis une promesse qui est très concrète, que les gens sont capables de visualiser, que ce soit tangible ou pas. J'en parle dans le filon d'or, justement, de c'est quoi les différences, comment vraiment analyser ces trois morceaux-là pour être capable de créer une idée de formation, justement, qui a vraiment beaucoup plus de potentiel et qui va vraiment répondre à un besoin des gens, comme je disais, qui est connu, donc il y a plus de chances d'être vendu, ce qui est l'objectif au final.
On est d'accord. Mais alors, tu vois, là, j'entends les petites voix de mon audience directe. « Oui, mais si je niche mon offre, je ne vais pas avoir beaucoup de gens à qui vendre, ça ne va pas marcher, etc. » Qu'est-ce que tu répondrais plutôt aux personnes qui pensent que nicher leur offre et prendre un sujet spécifique, c'est se tirer une balle dans le pied?
Je comprends l'idée, surtout en mentionnant qu'une formation, ça se vend à de la masse. La logique fait qu'on veut vendre au plus de personnes possible. Évidemment, l'histoire, c'est que pour bien vendre, là, on parle de vendre, OK? On parle pas de qui est-ce que ça peut aider. Pour bien vendre, les gens doivent être capables de se reconnaître eux-mêmes, doivent être capables de s'imaginer à vivre la situation souhaitée, de se rappeler de la situation initiale que tu essaies de parler, de la problématique que tu essaies de régler. Puis ça se fait quand tu es capable de comprendre tellement une personnalité parce que tu l'as ciblé. Mais tu peux pas faire ça avec tout le monde, dans le sens où on a toutes des différentes réalités. Si tu vises, là, on va faire ça très, très, très basique parce qu'il y a on s'entend que c'est pas la seule façon de nicher, mais juste en termes d'âge, genre, si tu essaies de me parler à moi qui a 31 ans au moment où on enregistre, j'ai bientôt 32. Puis versus quelqu'un qui a plus 65 ans, on n'a pas les mêmes, qui est retraité, on n'a pas les mêmes réalités du tout là.
Ouais.
Puis je sais même pas de quel sujet on parle encore, mais on n'a pas les mêmes réalités. Donc c'est sûr et certain que si tu donnes dans ton marketing des exemples de TikTok, ben peut-être que la personne retraitée va pas nécessairement comprendre. Mm-hmm. Donc d'être capable d'avoir des exemples imagés, ça se fait seulement quand on niche, mine de rien. Puis aussi, ce qui est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que percer un marché, donc on essaye de se faire une place dans une niche finalement, ou dans un, mettons, la niche du marketing, c'est très large, mais percer un marché, ça se fait avec la pointe d'une aiguille. C'est beaucoup plus facile de commencer spécialisé parce que les gens, tu deviens la référence dans un sous-sujet, finalement. Tu as énormément de compétition dans marketing, tu en as très peu dans email marketing, ou tu en as beaucoup moins dans email marketing. Puis tu peux avoir une formation, c'est pas juste comme le email marketing 101, mais c'est spécifiquement justement sur le list building comme la tienne. Fait qu'au final, de choisir un sujet qui est spécifique fait en sorte que les gens, que tu deviens une référence pour ce sujet-là parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc, éventuellement, tu vas être capable d'étendre tes sujets, puis tu vas pas être juste la fille qui parle de list building. Tu vas pouvoir parler justement, si mettons tu veux juste parler d'email marketing, mais toutes les autres, la rédaction de courriels, les courriels promo, de courriels de newsletter, créer un calendrier éditorial, puis après ça, ben aller un petit peu plus large, c'est quoi les différents types de marketing. Mais c'est beaucoup plus facile de commencer par être reconnu pour un sujet en particulier que d'essayer d'être reconnu pour tout, puis d'après ça, te nicher. Fait que oui, je suis 100% d'accord qu'on va laisser des gens de côté, mais au final, c'est encore une fois une question d'investissement long terme, de reconnaissance, de réputation, puis de devenir une référence dans sa niche versus une autre personne qui parle d'un certain sujet.
Je suis tellement, mais tellement d'accord avec toi là-dessus, mais ça a été un point, et c'est un conseil que j'ai déjà donné, il me semble, dans un épisode, alors, qui remonte sûrement, mais j'expliquais en fait que quand tu te lances et que tu as une niche, c'est ce qui fait que tu deviens connu, tu gagnes en visibilité, tu construis de la confiance, de l'autorité et de l'expertise. Et moi, à chaque étape, si tu veux, de mon parcours d'entrepreneur, j'ai toujours eu une spécialité. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2017 avec Pinterest. Ensuite, en 2020, j'ai switché vers le podcast. Et là, 2021, j'ai commencé à incorporer d'autres choses. Mais je suis persuadée que le reste n'aurait pas bien marché si je n'avais pas bien travaillé un positionnement spécifique en amont.
Je suis d'accord, puis c'est un peu la même, c'est mon expérience personnelle aussi, où j'ai commencé par l'affiliation, mais pas l'affiliation générale, mais tu sais, en plus déjà, c'est un peu connu, mais l'affiliation côté créateur, côté vendeur, donc j'ai vraiment commencé par ça, donc n'importe qui se posait la question, en tout cas, spécifiquement au Québec, qui se posait la question, comment est-ce qu'on crée un programme d'affiliation, donner des commissions, c'était mon nom qui ressortait tout le temps, parce que c'était mon positionnement unique. Évidemment, je sais comme plein d'autres affaires, je peux enseigner plein d'autres affaires à plein de monde, mais j'ai choisi ce sujet-là, puis spécifiquement parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup discuter et parce que c'était vraiment dans mes expertises uniques, dans les choses que j'ai testées, tu sais, par éthique aussi. Donc, en plus, les gens pouvaient avoir accès à quelque chose qui est difficile à trouver finalement en francophonie à travers moi. Puis éventuellement, j'ai rajouté tout ce qui est formation en ligne. Plus j'ai eu comme deux facettes finalement, puis t'es capable de créer une espèce de boîte avec ces deux spécialisations-là où tu fais comme, ah ben, c'est quoi le lien entre les deux? Ah ben, c'est travailler moins, faire plus, les revenus exponentiels, ce genre de trucs-là. T'es capable de créer une boîte avec ça, puis de créer, tu sais, ton branding va évoluer avec le temps de toute façon. Donc, on s'entend là-dessus 100% d'être plus ciblé en commençant, ça t'amène beaucoup plus de... ça a beaucoup plus d'impact sur les résultats futurs.
Carrément. Et alors, du coup... quand j'ai mon idée et qu'elle, je trouve qu'elle est spécifique, qu'elle est nichée, que c'est un truc qui me passionne et que j'ai envie d'aborder et dont je pourrais parler des jours et des jours, même gratuitement, comment est-ce que je peux valider en fait que c'est la bonne idée, tu vois, et me rassurer si t'as un conseil ou deux?
Ben écoute, ça commence, je te dirais, j'en parle dans le filon d'or, comment est-ce qu'on fait pour déterminer justement c'est quoi, ben tu sais, c'est quoi les besoins connus, first? Tu sais, on parlait justement, parce que oui, tu peux inventer des trucs, mais on veut que ce soit des besoins qui sont connus de ta cible, pas de toi. Puis il y a une différence à faire vraiment entre les deux où, oui, tu peux avoir une idée de qu'est-ce que les... Parce que ça fait longtemps que tu fais du coaching, parce que, tu sais, ton expertise, ainsi de suite. Mais tu peux avoir une idée, mais si t'es pas vraiment ta cible, puis ce qui est probablement le cas parce que t'es plus loin, t'es comme à l'étape 2, disons, puis eux sont encore à l'étape 1, t'es plus nécessairement dans leurs souliers. Donc, de toujours aller vérifier, de faire des espèces de minuscules études de marché, d'utiliser sa communauté en général. Ça, c'est, on est encore au processus de est-ce que c'est une bonne idée, là? On n'est même pas encore dans la création de la formation, de tester l'idée. On est plus dans c'est quoi vos besoins, tu sais? Puis d'essayer de récolter, puis de faire un petit peu de, j'appelle ça, de stalking, dans le sens où tu regardes tout ce qui se passe, les commentaires, les réponses de courriel que t'as. Tu pourrais même aller sur les groupes de d'autres personnes, puis pas nécessairement en posant des questions, mais en regardant les réponses des autres à des questions qui ont rapport avec, tu sais, le besoin que tu veux. tu peux évidemment initier ça, mais tu peux comme aller chercher sur Internet qu'est-ce que les autres ont dit par rapport à ça, puis de vraiment aller, pardon, d'aller récupérer les mots qui vont être extrêmement cruciaux, non seulement pour écrire ta description, pour trouver un nom de formation, mais éventuellement pour tout ce qui est marketing. Puis là, tu vas avoir un petit peu une meilleure idée de quoi les gens ont vraiment besoin, puis qu'est-ce qu'ils savent, de quoi ils savent qu'ils ont besoin. Mm-hmm. Tu sais, parce que ça va être vraiment la base. Évidemment, tu peux aller avec ta propre communauté, comme je disais, d'initier. Donc, poser des questions, envoyer des formulaires, utiliser les outils interactifs, dans les stories, où on va être capable de dire, justement, c'est quoi vos problématiques par rapport à telle affaire. De vraiment récolter tout ça pour ensuite être capable d'avoir une idée un petit peu plus claire de OK, la majorité ont besoin de ça, je vais créer une formation sur ce sujet-là. Puis éventuellement, quand on a créé, OK, on sait c'est quoi la formation, on est capable de bien la décrire, de l'articuler, de comprendre c'est quoi les bénéfices, parce que des fois aussi, nous-mêmes, on n'est comme pas encore certains. Mm-hmm. On parle qu'on a une idée sur un certain sujet, mais on n'est pas sûr encore ça va être quoi la garantie, tu sais, le résultat final. Ça, c'est des choses qui se font au fur et à mesure, mais de faire le processus en amont, de vraiment comme créer quelque chose, de nommer la beast au final, mm-hmm. Je pense que ça devient plus facile après ça de la vendre aux gens quand toi-même t'as fait le travail. Puis, éventuellement, quand on a justement toute cette idée-là de former, quand on a une description qui est concrète, qui est claire, quand on a un nom de formation aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter tant qu'ils n'ont pas leur nom. Ouais. Parce qu'on s'entend nommer ça. Ben, déjà, il y a beaucoup d'avantages. Puis, ironiquement, je suis en train justement d'écrire... j'ai pas encore terminé le contenu de la formation au moment où on enregistre, mais je suis en train d'écrire justement la vidéo sur genre nommer la formation. Mm-hmm. Puis, il y a tellement d'avantages justement parce qu'on recherche tout ça à identifier, à mettre dans des boîtes, tu sais. Ouais. Puis, quand on n'est pas capable de prendre de façon tangible, juste c'est encore trop flou. Bref, quand on a fait tout ce processus-là, je pense que la meilleure façon, ça va être justement d'aller... On a déjà fait le processus de valider est-ce que vous voulez ça en posant des questions, mais éventuellement, c'est de faire un bêta, pour être bien honnête, mm-hmm. de prendre l'idée de formation, puis en faire une première version en direct, MVP. Fait que MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc, on n'est pas là pour créer des gros PDF, on n'est pas là. On est juste là pour tester est-ce que la formation, c'est quelque chose qui se vend, donc tester notre mm-hmm. marketing. Puis ensuite, est-ce que la formation, le contenu a de l'impact? Parce que je me répète et je vais continuer de me répéter, c'est un investissement long terme.
Ouais.
Puis si tu n'as pas des bonnes fondations pour ça, c'est possible que tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts initialement dans la création d'une formation, puis qu'au final, tu te rends compte que c'était peut-être pas un besoin connu, peut-être que tu sais pas comment bien l'exprimer, tu sais pas combien bien dire, donc ton marketing ne fonctionne pas. T'avais plein d'angles morts dans ton contenu, puis les gens n'ont pas l'impact, n'ont pas les résultats que t'as promis. Mais quand t'as mis beaucoup, beaucoup d'efforts à créer des vidéos préenregistrées, à tout faire d'avance sans tester, allô les cœurs brisés, là. Donc, vraiment, ma suggestion, c'est qu'une fois que tu as ton idée de formation, c'est d'aller faire l'exercice de faire un bêta, de tester ton idée auprès de vrais consommateurs, mais vraiment pour être certaine que, justement, c'est une idée qui a du potentiel, qui va être capable de se vendre à travers le temps et qui a un impact sur les gens, au final.
OK, super. C'est hyper complet, hein, j'ai envie de dire.
C'est bien. J'ai ma réponse.
Ah non, je me dis, oui, du coup, le filon d'or, ça doit être pépite, comme j'ai dit au début, du coup, pour la suite. Alors, j'ai juste quelques petites questions en rapport avec les formations de manière générale. Comment on gère les choses quand on n'aime plus une formation?
c'est une très bonne question que je me fais rarement poser. Écoute, quand il n'y a plus de passion, je l'ai dit au début, hein, ça fait partie des deal breakers, pour être honnête. Là. Mm-hmm. Ça se peut que le contenu ait encore beaucoup d'impact pour les gens. Il n'est pas nécessairement passé date, il n'est pas, mm-hmm. il est pas vieux, il est encore bon, mais que nous, on n'est plus vraiment passionnés par ça.
Ouais.
C'est difficile après ça d'en faire la promotion. T'sais. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Évidemment, on peut juste laisser la formation là sur le site qui se fait des ventes. Est-ce que c'est la meilleure idée? Pas nécessairement. Si on veut vraiment plus pousser un autre angle, peut-être qu'on est mieux de juste la retirer. Ça ne veut pas dire qu'on supprime tout le contenu, tu sais. On est peut-être mieux de la retirer pour faire en sorte que les gens prennent une décision plus facilement envers le choix qu'on veut pousser. Donc, disons que tu as deux formations, tu veux que ça soit la formation B qui se vende maintenant, puis la A. Ben, donne pas nécessairement les gens le choix d'acheter la A, mm-hmm. parce que maintenant, ils vont comme comparer, ils vont se dire, est-ce que j'ai besoin de la A versus la B? Donc, peut-être qu'on peut tout simplement la retirer, puis c'est correct. C'est sûr qu'il y a d'autres options où, ben, si on a une équipe, on est capable de déléguer potentiellement le marketing pour que ça soit plus nous qui le fait. Mm-hmm. Mais tu sais, tant qu'il y a un investissement de temps de la part du formateur, c'est sûr que moi, je suggérais plus, ben, c'est correct de la mettre de côté, c'est correct de la retirer. Je disais tantôt, tu sais, de pas s'accrocher à nos anciennes versions, à ce qu'on a décidé dans le passé. Ça, ça en fait partie. Ou, si en ce moment, tu veux complètement changer ton image de marque, tu veux être plus reconnu pour un autre sujet, c'est correct de dire non à, justement, avoir une formation qui amène les gens à te positionner autrement de ce que tu le veux. Puis même, tu sais, ça peut être dans n'importe quoi, dans les entrevues que tu, mettons, des entrevues de podcast, justement, où tu te fais interviewer, où les gens veulent t'interviewer sur un ancien sujet, tu as le droit de dire non. Mm-hmm. Tu as le droit de contrôler la conversation, puis par rapport à qu'est-ce qui est dit par rapport à toi, puis c'est un petit peu ta responsabilité, finalement, de le faire. Donc, je pense que si on n'aime plus sa formation parce qu'on n'est plus passionné par le sujet, c'est très correct de la mettre de côté. Puis peut-être qu'on y reviendra plus tard dans une espèce de les produits vintage, tu sais, mais c'est correct aussi de laisser aller puis passer à d'autres choses.
Et qu'est-ce que tu te dis, comment tu gères quand, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui lancent une formation sur un sujet qu'ils aiment bien, peut-être même que ce sont les premiers, les premières à lancer la formation sur ce sujet-là, et ensuite ils voient d'autres formations apparaître sur le même sujet. Donc ça leur fout un coup au moral, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, etc. Quel conseil tu peux leur donner?
Je comprends absolument qu'est-ce que c'est parce que, ben écoute, spécifiquement au Québec, quand j'ai lancé ma formation sur les formations en ligne, il n'y en avait pas beaucoup. Mm-hmm. Puis éventuellement, ben tu sais, les gens en ligne, le marché en ligne francophone, la business commence à grossir. Puis là, tout le monde a des formations sur les formations en ligne. Puis je suis comme, puis là, ça me tanne parce que je suis comme, ben, mais j'ai déjà un angle un peu différent. Ou genre, la méthode que j'enseigne avec la méthode bêta, c'est pas la méthode classique, c'est comme je l'expliquais un petit peu, où on fait un test initial, tu sais. Mm-hmm. Donc, je pense que, de toute façon, c'est correct de revenir en arrière puis changer son marketing, hein. Son marketing, c'est pas parce qu'on l'écrit une fois qu'il est final, qu'il est dans le béton, mm-hmm. que c'est terminé. Donc, c'est correct après ça de se dire, OK, mais c'est quoi ma spécialité puis de vraiment miser là-dessus. Peut-être que c'est au niveau de la méthode, du système, comme dans mon cas. Puis dans ce cas-ci, par défaut, tu te démarques des autres. Puis oui, il y a des gens qui voudront pas ta méthode, qui vont vouloir une autre méthode, puis c'est correct parce que ta méthode, c'est ta méthode, point. T'sais. Tu peux pas enseigner d'autres choses que ce que c'est. Si t'as pas de méthode, évidemment, ça peut être d'aller peut-être commencer à peut-être plus cibler une sous-niche, dans le sens où je pense à certains entrepreneurs qui vont cibler, disons, tu sais, tu parles de business, tu parles de marketing, OK, mais est-ce qu'il y a une sous-niche assez grande, comme disons, les agents immobiliers ou les organisateurs de mariage ou n'importe quelle sous-niche finalement. Tu sais, c'est correct de... C'est pas parce qu'avant, t'étais un petit peu plus large que maintenant, tu peux pas un peu plus te cibler mm-hmm. puis commencer à spécifiquement à leur parler. Dans ce cas-ci, tu vas te tailler une place puis ben toutes les autres qui vont être généralistes te feront pas de compétition parce que tu vas être capable d'utiliser, encore une fois, des exemples imagés de la réalité des gens que tu vises maintenant, tu sais. Le contenu s'applique encore pour ceux anciens, mais maintenant, tu te... Fait que tu peux changer un petit peu ton targeting, finalement, mm-hmm. à travers le temps, t'as le droit de faire ça. t'as absolument le droit de faire ça. Puis, tu sais, de se rappeler aussi qu'au final, les étudiants choisissent leurs profs. Ouais. Ça, c'est dans les choses qui peut te ramener à... Mais tu sais, ça te prend aussi une confiance en soi que je suis quelqu'un qui amène de la valeur juste par moi, que ma personnalité est bonne pour les gens. Tu sais, d'avoir vraiment confiance à sa personnalité puis la mettre de l'avant, c'est difficile, mais ça fait aussi en sorte, comme je disais, que les étudiants peuvent choisir leur professeur. Donc, autant que, même si le sujet est identique d'une autre formation, ce qui est très peu probable, mais mettons, que le sujet est identique, au final, les gens vont peut-être... Une même personne va peut-être plus connecter avec moi que toi et vice-versa. Puis c'est correct. Parce que elle aurait jamais nécessairement acheté de moi ou elle aurait été en stand-by puis elle attend, tu sais, il y a quelque chose qui la dérange, peut-être que c'est mes cheveux, peut-être que je parle trop fort. Non, mais ça peut être aussi simple que ça, tu sais. Puis au final, si le fait qu'elle aille vers toi pour avoir plus de résultats, c'est ça le résultat des courses, ben tant mieux, parce que le but, c'est pas juste qu'on fasse de l'argent, c'est qu'on aide les gens, tu sais. Mm-hmm. Donc, je pense de focusser là-dessus puis de se dire, les gens qui investissent dans mon contenu, ils investissent aussi pour moi. Puis, tu sais, ça se fait à travers le contenu gratuit qu'on donne. Les gens se font une idée un petit peu du prof avant d'investir finalement dans la formation. Fait que, tu sais, il y a différentes façons de se nicher dans ces situations-là, de vraiment embrace, puis d'être d'accord, puis de vraiment représenter sa personnalité, c'en est une. Mm-hmm. Puis l'autre, évidemment, c'est d'essayer finalement une différente sous-niche. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, au final, si nous, on peut évoluer, notre contenu peut évoluer, puis notre marketing aussi. Là.
Je suis bien d'accord. Je pense même que c'est important que notre marketing, tout notre contenu, tout ce qu'on fait évolue en même temps que nous, quoi. J'ai une dernière question pour finir cet épisode. Qu'est-ce que tu penses de limiter la durée d'accès à une formation? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu recommandes ou pas?
Ah, oh, mon Dieu, le débat hein, de ça. Pour vrai, je le considère de plus en plus. Mm-hmm. Puis je sais là, c'est quoi les contres. Puis les gens sont comme... Mais en même temps, on est tous habitués à du contenu éducatif limité dans le cadre traditionnel d'éducation.
Ouais.
Dans le sens où, je suis allée à l'université pendant 3 mois, pendant la session d'automne, j'avais accès au contenu du prof, à un certain prof, puis j'ai un examen, puis c'est terminé, puis après ça, j'ai plus nécessairement accès, ben, j'ai accès à mes livres, mais j'ai plus les slides au tableau, je peux pas nécessairement aller contacter le prof pour, tu sais, je veux dire, il est pas là, il est plus payé par mois, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, on est habitué à ça, puis on a une espèce, je pense, de... Je sais pas, c'est comme une espèce de vibe où on sent qu'on est dû quelque chose en ligne, au contraire, où genre, oh non, mais je l'ai acheté, donc c'est dû à moi pour la vie. C'est un drôle de produit, l'éducation. Hein. C'est comme pas tangible. Une fois que c'est dans la tête, ça peut plus être ressorti. On peut l'oublier, mais au final, tu peux pas avoir un remboursement, vraiment. Mmh. Tu peux pas, mais s'il y a remboursement, il y a pas un échange fair parce que tu peux pas redonner l'éducation. T'sais. Fait que c'est une drôle de bibitte, je dirais, tout ce qui est produit d'information. Puis autant que je veux que les gens aient une expérience d'achat phénoménale puis qu'ils sentent qu'ils n'auront pas de pression, puis ainsi de suite. Autant que, pour être bien honnête, je veux leur mettre un peu de pression. Mm-hmm. Parce qu'en tant que formatrice, mon objectif, c'est qu'il y ait des résultats.
Ouais.
Pas dans 4 ans. Là. Puis s'il n'y a pas de limite, disons, à l'accès à la formation, disons, 12 mois, ben les gens pourraient attendre, puis attendre, puis attendre. Fait que en ce moment, mes formations sont accès à vie.
Ouais.
Je veux mettre un bémol là-dessus parce que pour les gens qui écoutent à vie puis qui sont comme « jusqu'à ce que je meure », non. C'est plus la vie de la formation. Donc, ouais. Dans le sens où tant que la formation existe, puis c'est pour ça que j'ai tout le temps, tant et aussi longtemps que la formation existe, tu vas y avoir accès. En ce moment, c'est le cas pour mes formations. Mais surtout pour les formations premium, ouais. Je te dirais, je vois vraiment plus un avantage à pousser les gens à... Tu sais, déjà, il y a un incitatif financier où, genre, t'as dépensé, veux-tu avoir un retour sur investissement bientôt? Mais plus que ça, check, t'as un maximum d'accès à cette formation-là. Fais en sorte que ton retour sur investissement se passe pour vrai puis bientôt. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, tu sais, des grosses formations avec énormément de contenu. Mine de rien, ça peut être difficile à appliquer, on n'a pas tous le même rythme. Puis c'est correct d'offrir une option où la personne peut renouveler finalement son accès pendant un autre 12 mois, peut-être à un frais qui est moins dispendieux. C'est correct ça aussi, là, tu sais, fait que de donner accès à vie, je pense que ça se fait peut-être plus justement sur des produits plus d'entrée. Quand on est rendu plus dans le premium, je pense que ça a vraiment un avantage pour pousser les gens à prendre action. Comme je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai encore fait, mais que je considère énormément pour la suite de mes produits.
Ouais, alors je le teste aussi, effectivement, sur du premium, pour le coup.
Voilà.
C'est vrai que... Alors, c'est un peu frustrant du côté des élèves, mais en même temps, comme ils ont la deadline, bah, ils y vont. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 mois, 4 mois où ça... Voilà, on y va tranquille, on procrastine, puis ensuite, on se rend compte, ah mince, j'ai plus accès à la formation à telle date, donc j'y vais et je me bouge. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est bien pour nous, en tout cas dans le cadre du premium, pour qu'on soit sûr que les gens avec qui on travaille avancent. Et qu'on ne soit pas juste en train de les regarder.
Parce qu'on s'en fout au final, l'échange d'argent.
Oui.
Genre, c'est le fun pour nous, c'est dans notre compte de banque. Mais c'est je veux clair. Dire, puis toi, tu sais, je veux dire, on est là, comme je disais, pour aider les gens, pour changer leur vie. Puis s'ils ne le font pas, ben, OK, c'est le fun d'avoir de l'argent, mais tu sais, c'est pas le seul... Mm-hmm. c'est pas la seule oui. motivation, finalement, là, tu sais. Donc, vraiment, c'est ça, d'imposer ça. Puis est-ce que c'est... Écoute, c'est dans la transparence, dans l'humanité, on le dit très clairement avant que les gens achètent. Check! Mm-hmm. Je peux savoir d'avance. T'as 12 mois pour accéder, pour prendre tout le contenu. Tu sais, il y a même des fois du contenu qui est téléchargeable. D'après ouais. ça, tu vas pouvoir l'avoir. T'as 12 mois pour faire ça. Tu vas-tu faire l'affaire? Si tu veux pas le faire en 12 mois, reviens plus tard. C'est pas grave. On te met pas de pression pour acheter, là. Mais si t'achètes, tu prends ça en considération. Donc, tu sais, après ça, si l'étudiant est frustré qu'il n'y a pas assez de temps, mais tu sais, ça l'a été dit d'avance. Tu sais, il y a aussi une responsabilité de l'étudiant de faire l'affaire, tu sais, dans laquelle il s'est engagé. Fait que, toi, je pense qu'en tant que formateur, si t'es transparent, si t'es humain dans le processus, s'il n'y a rien qui est caché, pour moi, c'est absolument dans l'éthique de la chose. Puis chaque entrepreneur, finalement, a la responsabilité de mettre en place les choses qu'il achète, les formations dans lesquelles il investit. Puis tu sais, c'est un peu la même chose avec Catching, où les gens ont 12 mois pour ouais. s'inscrire aux formations dans le bundle. Puis en tout temps, à la fin, il fait comme « Ah, oh, mais là, j'ai pas eu le temps. » Je fais comme « Check, je t'ai envoyé des rappels toute l'année. »
Ouais.
C'est parce qu'au final, je fais mon possible pour que tu le fasses. Fait que, tu sais, on prend nos responsabilités en tant que formateur, on crée une expérience utilisateur qui est le mieux possible, mais au final, et je crois vraiment fermement qu'il y a une responsabilité dans le camp, finalement, de l'étudiant qui doit être prise aussi pour faire en sorte que ben, les choses se passent et qu'il y ait un vrai retour sur investissement.
On est d'accord. Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour toutes ces bonnes astuces et toute cette valeur que tu nous as partagée aujourd'hui. Tu n'as pas fait de rétention, donc j'apprécie.
Non, vraiment pas. Oui. Je suis allée sortir des fichiers, justement, de la formation pendant. J'étais comme, attends un peu, je vais sortir du stock. Mais ça me fait énormément plaisir. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi de participer, justement, dans la promotion de Catching pour la troisième année. J'espère que les gens vont nous rejoindre dans le bundle cette semaine. C'est pas long, hein? C'est 5 jours, la ouais. promotion. C'est, comme tu disais, c'était du 14 au 18. 18 à minuit Québec.
Fait que bon, ouais, ça laisse un peu de temps.
Vous avez samedi, ouais. ouais, mais à 6 heures du matin, là, qui est-ce qui va être debout?
Ah, on sait jamais.
Mais bref. Oh, hey, moi, j'en ai tout le temps la dernière seconde. Voilà. J'en ai voilà. tout le temps la dernière seconde.
Quoi qu'il en soit, le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous invite, c'est un peu la bonne affaire de l'année, pour le coup, le bundle Catching. Je pense qu'il y en a plein qui l'attendent. Mais en tout cas, voilà, soyez dans les starting blocks. C'est dispo, c'est jusqu'à vendredi. Et ensuite, bah, malheureusement, il faudra attendre l'année prochaine et ce ne sera pas les mêmes formations. Donc, voilà, si vous êtes intéressés, c'est maintenant.
C'est maintenant.
Merci Geneviève.
Voilà. Ça me fait plaisir, bye bye.
Salut. J'espère que cet échange avec Geneviève vous aura plu et vous aura permis de déterminer avec plus de clarté et de sérénité le sujet de votre prochaine offre. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par le bundle Catching, c'est dispo jusqu'à vendredi via le lien présent dans les notes de cet épisode ou en vous rendant directement sur safiagourari.fr/bundle. Pour rappel, c'est un lien affilié et si vous décidez de passer par mon lien, vous m'attribuez une commission et je vous en remercierai très grandement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.